auditeurs, bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tours. Bienvenue dans Sortez, la quotidienne socio-culturelle. Aujourd'hui, nous allons parler médiation animale. Et notre invitée du jour, c'est Sarah Forger. Bonjour Sarah Forger.
Bonsoir.
Sarah Forger, vous êtes doctorante au laboratoire PAVEA, psychologie des âges de la vie et adaptation, et psychologue en médiation animale. Donc on reviendra plus tard dans cette émission sur ce qu'est PAVEA. Mais tout d'abord, voilà, je suis curieuse sur la médiation animale. J'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est.
Finalement, la médiation animale, on peut se dire que c'est une relation triangulaire. En fait, on a la présence conjuguée d'un animal, d'un tiers expérimenté, et ça c'est très important, et d'un patient avec une problématique qui peut être un handicap social, physique, mental, sensoriel ou psychique.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on appelle un tiers expérimenté ?
Alors ça peut être un travailleur justement dans tous ces milieux, que ce soit le handicap social, physique ou psychique, et quelqu'un qui va avoir finalement une profession, alors pas forcément dans le en termes de soins, mais alors évidemment mon exemple c'est la psychologue, mais ça peut être une orthophoniste, un kinésithérapeute, un pédopsychiatre, éducateur spécialisé, etc., etc. On a même aujourd'hui des aides-soignantes qui se forment en médiation animale pour justement avoir en fait cette relation triangulaire pour aider aux soins. Quand on parle de personnes expérimentées, pourquoi moi j'insiste souvent là-dessus, c'est qu'en fait on a parfois eu des gens qui nous disent oh bah j'aime les chiens, bah je vais faire de la médiation animale, voire de la zoothérapie. Et alors, c'est ce terme, en fait, qui a pu, au départ, entre guillemets, poser souci, c'est qu'en fait, on disait zoothérapie, et on considérait que finalement, l'animal était le thérapeute. L'animal n'est pas le thérapeute, il va aider le thérapeute à obtenir, alors obtenir c'est un grand mot, mais à l'aider finalement dans son travail de thérapeute. Mais c'est pas l'animal le thérapeute en soi. Alors on sait tous depuis des années qu'en fait l'animal de compagnie peut apporter des choses, mais c'est l'animal de compagnie, oui il peut y avoir un bien-être, etc. Mais là après on ne parle pas de thérapie parce qu'on n'a pas d'objectif. On n'a pas d'objectif réel de bien-être derrière juste un animal de compagnie.
Est-ce que vous aimeriez nous dire quel genre de formation il existe pour être dignement professionnel en médiation animale, puisque vous nous dites par exemple qu'il peut y avoir des aides-soignantes ou tout autre professionnel qui se forme
Alors, c'est la grosse problématique aujourd'hui. D'ailleurs, lors du colloque de cette journée d'études, la Fondation Sommer sera présente. La Fondation Sommer est une fondation qui est spécialisée dans la médiation animale et qui recueille en fait toutes les études aujourd'hui qui sont faites, qui est aussi un peu, hein, je dirais, le garant quelque part d'une certaine... d'un certain sérieux par rapport aux études, parce que c'est pareil, on voit aussi des gens dire bah oui moi j'arrive à faire ça, oui mais derrière ce n'est pas une thérapeutique. Alors les formations c'est pareil, comme aujourd'hui la médiation animale, moi quand j'ai commencé en médiation animale il y a 10 ans, on me prenait un petit peu pour une folle, hein. Elle est psychologue et elle travaille avec un chien, oulala. Aujourd'hui on voit qu'il y a des bienfaits, donc en fait toutes les il y a beaucoup de formations qui fleurissent, mais est-ce réellement des formations très sérieuses ? Là, moi, je ne m'engagerai pas à juger ça, parce que d'ailleurs, c'est pour mon travail. Mais aujourd'hui, moi, celle dont je peux parler, c'est celle d'Andy Chien, puisqu'en fait, j'ai moi-même, alors aujourd'hui, un chien d'assistance, 10 d'accompagnement social, qui travaille avec moi. Et j'ai eu Comtesse, qui est sur l'affiche, en fait, du colloque, qui est maintenant en retraite. Donc c'est, voilà, c'est une association que je connais bien, qui remet des chiens depuis 1989. Et qui a une spécialisation et qui est donc le chien d'assistance dit d'accompagnement social. Et en fait, ces chiens sont spécialement éduqués pour rentrer dans les structures qui sont en fait formés à ne pas forcément réagir comme un chien lambda pourrait faire à un trouble du comportement. Alors moi, mon domaine, c'est la personne âgée, dit aussi démente. Donc voilà, moi, mon chien, il est capable d'entendre des cris, de voir quelqu'un qui va déambuler ou qui va même s'énerver sans lui s'énerver ou bouger beaucoup, voire même il est capable d'apaiser la personne. Et la spécificité aussi d'Handichien, c'est qu'à la fois ils forment les chiens, mais ils forment aussi les futurs bénéficiaires. Alors, on parle de référent dans le cadre du chien dit d'accompagnement social. Et donc, le référent, moi, je suis par exemple référente de Jinko. Des aides-soignantes peuvent être référentes d'un chien dit d'accompagnement social, une infirmière, une orthophoniste, etc. Et donc, en fait, il y a un stage sur une semaine. Alors, un premier de 3 jours sur l'écriture projet. Et c'est aussi ce qui me semble très important, c'est qu'en fait, on n'introduit pas un chien dans une structure comme ça. Parce que derrière, c'est aussi 10 ou 15 ans de la structure qui est mis en jeu. C'est un budget, c'est qui va s'en occuper. Si moi-même j'ai une carrière si j'ai envie d'évoluer, est-ce que je reste dans la structure? Est-ce que le chien reste dans la structure? Voilà, c'est toutes ces finalement problématiques qu'il faut poser en amont afin que réellement le projet soit pérennisé. Parce qu'on a vu aussi des projets très bien au demeurant au départ, mais en fait au bout de 1 an, 2 ans, s'essoufflent. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment bien y penser avant. Donc il y a ces 3 premiers jours en fait de d'écriture projet, et après si le comité considère que le projet est viable et il y a une seconde formation donc d'une semaine qui est là le stage en fait de passation où en fait les futurs référents apprennent toutes les commandes, puisqu'en fait c'est des chiens qui connaissent en tout 52 commandes.
Alors peut-être un mot pour expliquer comment ces chiens d'accompagnement social sont formés, combien de temps dure une formation, combien ça coûte et quelle différence il y a avec par exemple un chien guide.
Alors, c'est souvent, quand on se balade en fait avec, parce que les chiens d'assistance ont une cape également, et souvent les gens disent « Ah, vous avez un chien guide ». Non, ce n'est pas un chien guide. En fait, alors, par contre, ça commence à peu près pareil, parce qu'en fait, on a des familles d'accueil qui sont bénévoles et qui vont commencer à sociabiliser le chien pendant 18 mois. Ensuite, le chien est remis au centre d'éducation. Alors, les 18 mois, la famille d'accueil n'est pas laissée comme ça. Il y a des formations régulières, il y a des cours, en fait, toutes les semaines ou tous les 15 jours avec les familles d'accueil et le chien pour voir comment le chien aussi évolue. Et c'est ce qui permet aux éducateurs de se dire, tiens, ce chien-là, il pourra être peut-être chien d'assistance, il pourra être chien dit d'accompagnement social, voire maintenant, on a aussi des chiens d'éveil qui, eux, sont remis, en fait, par exemple, aux parents d'enfants autistes ou avec des difficultés psychiques autres. Et après, donc ces 18 mois en famille d'accueil, le chien est remis au centre d'éducation et pendant 6 mois, il va être travaillé, il va réapprendre d'autres commandes et ensuite, pendant ces 6 mois, l'éducateur, lui, va se dire, tiens, il a plutôt tel ou tel profil, rencontre aussi les personnes qui ont posé leur projet ou alors que ce soit des personnes qui vont, elles, être bénéficiaires, donc chien d'assistance ou référent pour le chien dit d'accompagnement social. Et après, la remise a lieu. Donc, en fait, le chien est remis aux environs de 24 mois.
Voilà, donc, ça fait quand même un temps certain. Hein, pour
c'est un gros
chien.
Parcours et ça coûte très cher, puisqu'aujourd'hui, on peut dire qu'un chien dit d'accompagnement social, voire un chien d'assistance également, ça coûte 15 000 euros à l'association. En termes de formation et tout ça est remis. Alors, les chiens d'assistance sont remis gratuitement. En fait, aux personnes bénéficiaires. Et pour le chien d'accompagnement social, il y a une formation qui est payante, mais la structure ne paye pas 15 000 euros.
Alors peut-être une question aussi sur les personnes qui sont bénéficiaires, en fait, qui vont pouvoir être accompagnées par une personne qui connaît le chien et l'animal. Qu'est-ce qui fait qu'on peut orienter une personne plutôt vers un chien d'accompagnement que plutôt vers l'art thérapie? Qu'est-ce qui fait qu'on estime que le profil de telle personne convient, en fait. Enfin...
Et c'est là où, en fait, on parlait tout au début, en fait, d'une personne expérimentée. C'est là où, en fait, c'est important de discuter, alors, soit en équipe pluridisciplinaire, soit avec lui-même le patient ou le résident. Et c'est quelque part une sensibilité qu'on peut avoir, mais là, en termes de soignant, de se dire, tiens, telle personne pourrait plutôt convenir à la médiation animale. Alors, moi, par exemple, en structure, puisque j'interviens et en structure et dans un cabinet libéral, en structure, par rapport aux personnes âgées, on se sert aussi beaucoup de l'histoire de vie. J'interviens dans un milieu rural, puisque j'interviens à Château-du-Loir, et en fait, quand dans l'histoire de vie, la personne a elle-même eu des animaux, etc., on va tenter une approche en médiation animale. Et puis, on va pas se dire tout de suite, ça y est, on fait de la médiation animale. On peut, moi, je peux passer dans la structure, saluer la personne, vous voyez, moi, j'ai un chien, etc. Et ça permet de se dire, ah, peut-être que ça peut fonctionner chez cette personne. Voilà. Et ça ne veut pas dire que si on propose de la médiation animale, on ne pourra pas proposer de l'art-thérapie ou autre. La médiation animale aujourd'hui, auprès de la personne âgée, fait partie des thérapies dites non médicamenteuses. On sait aussi que par rapport aux personnes âgées démentes notamment, on arrive à nos limites en termes de thérapie médicamenteuse et la HAS, Haute Autorité de Santé, préconise les thérapies non médicamenteuses.
Alors une question aussi... Comment vous êtes venue en tant que psychologue, et même sûrement avant, qu'est-ce qui a fait que vous ayez choisi cette orientation-là? Pourquoi vous avez eu envie de travailler autour de la médiation animale?
Alors, je pense qu'on travaille rarement en médiation animale par hasard. J'ai moi-même, en fait, une expérience très personnelle où, en fait, j'ai eu une maladie au moment de mon bac. Et en fait, ce qui m'a fait louper mon bac à l'époque, comme quoi, même si on loupe son bac, on peut y arriver un jour.
Oui.
Et en fait, on m'a offert à ce moment-là un chien, donc pour mes 18 ans, une chienne labrador, qui m'a permis, en fait, réellement de me relever au sens propre comme au sens figuré. Et après, en Master 1, j'ai voulu travailler sur la médiation animale. Et à ce moment-là, donc c'était, je ne suis pas un dinosaure, mais c'était quand même en 2007, où j'ai travaillé, en fait, mon Master. Je l'ai consacré à ce travail de mémoire sur la médiation animale, déjà à l'époque, auprès de la personne âgée.
Est-ce que vous voulez nous raconter quel était votre sujet de mémoire, quel stage vous avez pu faire pour travailler là-dessus?
Alors mon sujet de mémoire, en fait, c'était la médiation animale auprès des personnes âgées non démentes, personnes âgées avec un vieillissement dit normal. Et j'avais contacté, en fait, déjà à l'époque, quelqu'un qui était référente d'un chien d'accompagnement social et qui avait une association et qui, en fait, passait pour des activités dans les structures. Et donc je l'avais suivi, j'avais fait des tests avant. J'avais fait toutes les séances avec elle et 7 semaines après, on avait fait aussi des tests et dans ce mémoire, on s'était rendu compte que le taux de dépression avait très largement diminué, que des personnes qui ne se parlaient pas entre elles, alors qu'elles habitaient dans la même structure, s'étaient rencontrées parce que la motivation d'aller à l'activité parce qu'il y avait un chien était apparue et du coup, ils avaient pu se rencontrer.
Donc il y a des effets mesurables et quantifiables.
Clairement. Alors c'est moins facile que sur d'autres sujets, clairement, mais on peut y arriver. Et c'est aussi ce qui m'a amené en fait à vouloir faire une thèse, parce que aujourd'hui, il y a quelques années, on était encore dans oui, mais c'est très subjectif, et on peut voir qu'il y a aussi des études, mais qui sont pas forcément très très scientifiques et très objectives, mais à la fois aujourd'hui, on peut aussi quantifier les effets de la médiation animale.
Sarah Forger, j'aimerais vous faire écouter un extrait sonore. En fait, c'est Tristan Plot qui est éducateur d'oiseaux. Donc voilà, il éduque, il dit bien, il insiste sur le fait qu'il éduque des oiseaux et qu'il ne les dresse pas. Et en fait, on a pu voir ces oiseaux, par exemple, dans un spectacle de Pascal Quignard. Donc c'était une chouette effraie et une corneille. Donc dans le spectacle arrive dans le noir et il se trouve qu'il intervient aussi en milieu carcéral. Donc voilà, il fait de la médiation avec ces oiseaux. Donc, un petit extrait d'une interview.
Je fais de la médiation par l'animal, c'est-à-dire que je mets mes oiseaux, comme ils sont hyper sociaux, en contact avec des personnes en difficulté, quelles qu'elles soient. Et là, en ce moment, c'est avec un centre pénitentiaire, donc une prison de mon département. Où on fait des séances toutes les semaines, donc ce sont des moments très très forts, très très riches.
Et alors, vous emmenez quels oiseaux au centre pénitentiaire?
J'emmène donc Babayo, celui-ci, la corneille, les étourneaux, des perruches, les chouettes, donc je les ai depuis très peu de temps, donc elles n'y sont pas encore allées, mais elles vont y aller là en rentrant, les chouettes effraies, des geais, et voilà, c'est déjà pas mal.
Oui, et alors comment ça se passe en fait de vous proposer aux détenus, aux gens qui sont là d'avoir les oiseaux avec eux ou de les toucher
Alors oui, de les toucher, oui, puisque les oiseaux viennent sur l'épaule, sur le bras, voire jouent avec pour certains, pour ceux qui sont joueurs. Donc on est, alors c'est un petit groupe, on est 4 ou 5. Avec ça, c'est un travail qui s'est fait en préparation avec une psychologue, une ergothérapeute. Enfin, là il y a une énorme préparation avant ça. Donc voilà, ils sont 4 ou 5 dans la pièce, assis normalement autour d'une table. Et voilà, on discute, c'est assez simple en soi, mais il se passe énormément de choses, quoi. Et donc l'oiseau vient, ne vient pas, lui, il leur donne à manger, enfin voilà, c'est... Il y a un échange assez sympa.
Ça doit être précieux, ça, de voir ce qu'ils en disent, en fait, de cette rencontre avec un oiseau.
C'est extrêmement précieux, oui. C'est même très, très émouvant. Voilà, c'est des personnes qu'on place comme ça en prison. Quoi qu'ils aient fait, c'est pas le... Mais ça soigne rien, en fait. Ça arrange aucun problème, malheureusement. Donc ça les isole de la société parce qu'ils ont commis une faute. C'est ce système qui est comme ça. Le jour où ils sortent, voilà, il faut aussi qu'ils puissent revenir dans la vie normale, en société, quoi. Donc c'est pas en les isolant de tout et de tout état émotionnel, surtout, que ça fonctionne bien. Donc qu'ils soient en contact avec les oiseaux, ouais, c'est très très fort. C'est très très fort. C'est extrêmement précieux, extrêmement riche. Et là, j'ai hâte d'y retourner. Ouais.
Qu'est-ce que ça vous évoque, Sarah Forger, Tristan Plot, éducateur d'oiseaux, qui parle des ateliers qu'il peut faire en milieu carcéral ?
J'entends et je suis tout à fait d'accord sur le fait que, de même que moi, je n'introduis pas le chien n'importe comment, il n'introduit pas ses oiseaux n'importe comment. C'est quelque chose qui est pensé, réfléchi et cadré avant. En amont, et ça c'est très très important. On ne peut pas parler de médiation animale sans avoir pensé les choses, parce que sinon on arrive forcément à des échecs parfois. La difficulté, en fait, c'est de à la fois penser les choses et à la fois laisser aussi une spontanéité dans la rencontre. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi au fur et à mesure des années.
Je vous propose maintenant de faire une pause musicale pour qu'on puisse reprendre notre souffle avant de parler de Pavea, puisque vous êtes doctorante au sein de ce laboratoire de recherche de l'Université de Tours. Donc on expliquera bien sûr à nos auditeurs ce qu'est Pavea et quel est votre sujet de recherche. Et bien sûr, ensuite, nous parlerons de la journée d'études, la médiation animale pour qui et pourquoi, qui aura lieu le 31 mai. Mais tout de suite, nous écoutons le groupe Tourangeau, le duo Tourangeau même, Ousti, qui reprend des chants des Balkans.
Da
Mousti sur Radio Campus Tour, duo Tourangeau qui revisite les chants des Balkans. Et nous sommes toujours en compagnie de Sarah Forger, doctorante au laboratoire Pavea, psychologue également, qui travaille autour de la médiation animale. Alors, Sarah Forger, peut-être maintenant, peut-on parler de votre thèse, de votre sujet de thèse et qu'est-ce qui vous a poussé à faire une thèse, puisque vous êtes psychologue, mais vous travaillez également. Mm-hmm. Vous avez un travail prenant et vous avez décidé de faire une thèse. Alors, pourquoi ?
En fait, effectivement, hein, j'ai donc fait mon master 2 pro, donc j'ai mon titre de psychologue et je travaille à la fois en plus en structure, je suis formatrice et j'ai deux cabinets libéraux, donc j'étais déjà très très bien occupée. Après, justement, par rapport à tout ce sérieux et tout ce côté scientifique dont on a pu parler depuis le début de cette interview, je pense que c'était important à un moment de montrer objectivement les effets que l'animal peut avoir, notamment auprès des personnes âgées démentes. Puisque, en fait, je disais donc tout à l'heure, mon mémoire de Master 1 était consacré aux effets de la médiation animale et notamment du chien auprès des personnes âgées avec un vieillissement dit normal. Et on s'est aperçu qu'en fait, les études par rapport aux personnes âgées démentes était très peu fourni parce que c'est évidemment plus difficile aussi hein, de quantifier, de proposer des tests à des personnes âgées démentes. Et à la fois, on sait pour travailler du coup en structure pour personnes âgées démentes que ces thérapies non médicamenteuses, faut vraiment que elles prennent un essor. Il y en a quelques-unes, mais pas assez. Pas suffisamment par rapport à ce qui pourrait être fait. Et on sait bien aussi qu'aujourd'hui, nos dirigeants ont besoin de chiffres. Alors, je me souviens, moi, quand j'ai eu Comtesse, donc en 2010, la première chose que l'infirmier hygiéniste a fait, c'est faire un énorme dossier sur toute la problématique hygiénique du chien dans la structure, alors qu'en plus, l'EHPAD est un lieu de vie, hein, donc l'EHPAD est établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc anciennement les maisons de retraite, mais avec un niveau de dépendance plus important. Voilà, c'est un lieu de vie, et il faut savoir aussi que le chien aujourd'hui, bien toiletté, vacciné, etc., n'amène pas plus de microbes que nous-mêmes avec nos semelles de chaussures. Donc ça fait toujours sourire, mais c'est la réalité. C'est vraiment un vétérinaire hein, qui a donné en fait cette expérience dans son sujet de thèse aussi. Voilà. Donc c'était vraiment pour prouver scientifiquement aussi les choses afin que aussi d'autres personnes qui veulent monter ces projets de médiation animale, notamment avec le chien, puissent se servir quelque part de ces études et amener aussi nos dirigeants à se dire « Ah, peut-être que, oui, il y a une diminution de la prise médicamenteuse, il y a même un effet sur les soignants. » Parce que forcément, c'est aussi un cercle vertueux, là, pour le coup. Si les résidents ont moins de troubles du comportement, les soignants vont mieux.
Et donc, comment est-ce qu'on entre au laboratoire Pavea ?
Alors en fait j'avais du coup comme directrice de mémoire à l'époque Nathalie Bailly qui est une de mes directrices de thèse et dans mon jury de mémoire il y avait Valérie Penquin qui est du coup mon autre directrice de thèse en fait. Donc je leur ai demandé, en fait, hein, je leur ai posé la question si elles acceptaient de me suivre sur ce sujet, mais elles ont accepté. Donc j'ai en fait deux directrices de thèse et donc du coup ma thèse est sur deux axes puisque le laboratoire Pavea, psychologie des âges de la vie, est composé de quatre axes A, B, C, D. Et donc l'axe A qui est plutôt sur l'aspect cognitif et l'axe D qui est sur l'aspect gérontologie et vie quotidienne. Et donc en fait, ma thèse s'inscrit dans ces deux axes.
Voilà, donc quand même pour donner des informations sérieuses, disons à nos auditeurs, on rappelle que le laboratoire psychologie des âges et de la vie et adaptation, PAVEA, est une équipe d'accueil EA 2000, c'est ça, 114, dirigé par la professeure Valérie Penquin et rattaché au département de psychologie de l'UFR Arts et Sciences Humaines de l'Université de Tours. Le A2114 est membre de la Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire, qui sont nos proches voisins, ici Radio Campus Tours, au de Lyon, et rattaché à l'École des Sciences Doctorales, des Sciences de l'Homme et de la Société, voilà, filière pratique culturelle et psychologie, et que cela appartient également à la structure fédérative de recherche en neuroimagerie fonctionnelle. tout ça.
Vous voyez qu'en plus, je suis bien entourée, hein, puisque voilà, Valérie Penquin est la directrice, en fait. Et Nathalie Bailly est la responsable de l'axe D.
Voilà, donc est-ce que vous voulez nous expliquer comment fonctionne en fait ce laboratoire Pavea? Combien de chercheurs peut-être y travaillent? Parce qu'on a l'impression qu'il y a bien sûr cet axe gérontologie, mais il y a trois axes thématiques. Mm-hmm. Il y a aussi, je crois, ressources, vulnérabilité et qualité de vie. Enfin, il y a d'autres choses, en fait. Mmh. C'est un énorme laboratoire.
Oui, et c'est vrai que, en fait, ces quatre axes sont présents, donc avec plusieurs thématiques de recherche. C'est plus difficile pour moi, en fait, de parler de la vie du laboratoire, puisque j'interviens sur certaines réunions de laboratoire, mais tout en sachant que je travaille, et à plus que plein temps, du coup, je ne suis pas forcément tous les jours à la fac, hein, loin de là. Je travaille beaucoup à distance aussi, hein, avec mes deux directrices de thèse, ce qui prouve aussi que, quelque part, on peut aussi et travailler et être doctorante.
Voilà, donc ça c'est important de le dire, oui, aussi, de dire qu'un laboratoire de recherche c'est énormément de personnes, hein, mmh, c'est pas deux ou trois personnes, c'est beaucoup de personnes, et que bah oui, on n'est pas tout le temps à la fac en fait.
Tout à fait.
Voilà, et qu'il y a plein de fonctionnements différents. Et donc il y a une question qui se pose aussi, c'est parce qu'une thèse quand même c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, et donc vous travaillez à côté, donc vous avez quand même des revenus, mais comment c'est financé une thèse comme ça, parce que c'est un tel travail que...
Alors justement, c'est la grosse problématique, c'est qu'en fait, c'est pas toujours financé. Et c'est aussi, à mon avis, ce qui a pu causer parfois l'abandon, hein, de certaines thèses. Aujourd'hui, moi, j'ai une partie qui est financée par justement la Fondation Sommer, qui est spécialisée dans la recherche et dans les activités de médiation animale. Donc eux me financent, en fait, à hauteur de 3000 euros par an. Donc évidemment, hein, ça comble pas des revenus sans même vouloir un train de vie très important. C'est pas forcément ce qui va me faire vivre, mais ça peut me permettre aussi de me dégager, par exemple, de temps en temps une journée par semaine pour me consacrer à la thèse.
Mais d'ailleurs, peut-être aussi que finalement, travailler en faisant une thèse, c'est aussi une façon de garder vraiment les pieds dans la réalité de votre métier. Mmh. Et peut-être que ça alimente aussi votre travail de réflexion.
Complètement, puisqu'en fait, déjà mon expérimentation, voilà, je connais en fait les patients résidents, je sais comment ça peut se passer. Auprès des soignants, c'est aussi plus facile d'amener les choses parce qu'on connaît aussi la réalité dite de terrain. Et c'est ce que j'aime quelque part dans le fait d'avoir et mon titre et d'être professionnelle et de pouvoir être aussi dans cette recherche et sur la thèse de doctorat, parce que l'un ne va pas sans l'autre et nos théories ne peuvent pas exister sans la pratique et vice versa.
Peut-être que c'est plus facile aussi pour échanger avec des équipes soignantes, d'avoir, oui, cette expérience professionnelle qui, voilà, vous avez une réelle connaissance du terrain, des fonctionnements d'équipe, des difficultés, oui, aussi que les soignants peuvent rencontrer. Peut-être que ça vous aide beaucoup de leur amener votre travail de recherche, mmh, parce que vous avez déjà une connaissance du terrain et que ça ne fait pas cheveux sur la soupe.
C'est ça. Et d'ailleurs, en fait, là, l'institution dans laquelle je travaille, elles sont partie prenante de justement l'expérimentation qui aura lieu en septembre. En fait, elles me demandent régulièrement, alors on commence quand? On fait quoi? Alors que si j'étais arrivée, personne lambda, chercheur, j'ai ça à faire, je vous demande tel test avant, tel test après... Alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est moins facile, clairement.
Donc, finalement, d'avoir cette expérience de terrain, ça crée aussi une adhésion, oui, de l'équipe soignante.
Oui. Mmh. Pour moi, oui.
Eh bien, avant de se pencher sur cette journée d'études autour de la médiation animale, je propose qu'on fasse une seconde pause musicale. Et pour rester dans le thème des Balkans, on va écouter Esma Redzepova, Romano Oro. Thank you. Esma Redzepova, Romano Oro sur Radio Campus Tour. Vous êtes toujours, évidemment, sur Radio Campus Tour et vous êtes toujours dans Sorté. Nous sommes toujours avec notre invitée Sarah Forger, on le rappelle, doctorante au laboratoire Pavea et psychologue qui travaille autour de la médiation animale. Sarah Forger, vous êtes venue nous parler de votre travail, de votre thèse, mais évidemment aussi d'une journée particulière, une journée sur la médiation animale. Pour qui et pourquoi, qui aura lieu le 31 mai. Alors, en quoi va consister cette journée d'études ?
En fait, l'objectif de cette journée d'études, c'est aussi de faire le point, en fait, sur les activités et sur ce qui peut être fait, en fait, en médiation animale. Alors, c'est ouvert à tous. On ne voulait pas quelque chose de très scientifique au départ. Alors, il y a des interventions de qualité et qui sont scientifiques, mais sont à la fois compréhensibles sans un côté péjoratif, mais pour tout le monde. Et le but aussi, c'est de montrer que derrière tout projet de médiation animale, encore une fois, il y a un objectif, il y a un sérieux, il y a un réel travail, et sur toutes les populations. En fait, puisque durant cette journée, on va pouvoir écouter des gens qui travaillent à la fois dans le milieu du handicap, que ce soit enfants ou adultes. Alors, on en a parlé, hein, mais moi, mon intervention, c'est auprès des personnes âgées, mais ça peut être aussi auprès de jeunes autistes. Et aussi en milieu carcéral, ce qui est, du coup, je rebondis hein, sur l'interview que l'on a pu écouter tout à l'heure, on recevra des personnes qui, en fait, ont introduit des chevaux en milieu carcéral, et également aussi hein, une personne qui travaille avec un chien d'assistance dit d'accompagnement social en milieu carcéral.
Donc cette journée, elle commence le jeudi 31 mai, on le rappelle, à 9h, à partir de 9h. Et c'est où précisément ?
C'est sur la fac de arts et sciences humaines, en fait, sur notre fac de psycho, donc au Tanneur.
Voilà, site des Tanneurs, donc bien connu des étudiants de lettres. Donc si vous êtes dans le coin, messieurs, dames, n'hésitez pas à passer écouter les tables rondes et les différentes conférences. Donc peut-être qu'on peut donner un aperçu en fait, des interventions qu'il y aura à voir.
Alors en fait, on va démarrer hein, par une petite partie théorique et puis avec un état des lieux en fait de la présence animale dans les structures médico-sociales en France. Et c'est le directeur en fait de la fondation Adrienne et Pierre Sommer qui présentera en fait cet état des lieux. Ensuite, on aura une table ronde qui pourra nous parler en fait de la médiation animale avec un chien. d'accompagnement social, éduqué par Andy Chien. Donc, on verra notamment le président, hein, en fait, d'Andy Chien, le président actuel, qui est le successeur, en fait, de Marie-Claude Lebray, qui est, elle, la créatrice, la fondatrice d'Andy Chien, donc en 1989. Et également Florian Auffray, qui est, lui, le délégué national du chien d'accompagnement social. C'est l'éducateur qui est vraiment spécialisé par rapport à ce chien d'accompagnement social. Et là, également Charlotte, qui, elle, éducatrice spécialisée, qui à la fois travaille avec un chien d'accompagnement social, mais a également monté une ferme pédagogique. Donc voilà, quelqu'un qui a aussi beaucoup d'expérience aussi en médiation animale, et pas seulement avec le chien. Ensuite, on s'intéressera à la médiation animale et au handicap, que ce soit avec le handicap adulte et un chef de service d'IME qui, a 10 ans de pratique sur la médiation animale, ce qui est intéressant parce que récemment, là, on voit fleurir, entre guillemets, beaucoup de projets, mais là, on a un retour de 10 ans de pratique, donc c'est aussi très, très intéressant de pouvoir écouter, en fait, Monsieur Beaulieu. Et puis, Laurence Amery, hein, nous a fait le plaisir de venir, qui est donc une pédopsychiatre sur Tours, et qui a beaucoup travaillé, en fait, sur l'enfant autiste et l'équithérapie. Puis, après tout ça, l'après-midi, on parlera médiation animale et personnes âgées. Alors j'interviendrai pour parler de tout ça. Et également aussi Stéphane, qui est kinésithérapeute et qui travaille lui aussi avec un chien d'accompagnement social. Et il pourra nous parler en fait de sa pratique et de ce que ça peut être comme valeur ajoutée à sa pratique. Et on parlera ensuite, pour finir, de la médiation animale et du milieu carcéral.
Voilà, donc ces interventions, on le rappelle, jeudi 31 mai au Tanneur, au site des Tanneurs, à partir de 9h et ça dure jusqu'à
16h.
16h, voilà. Donc une belle journée avec plein d'interventions. Évidemment, n'hésitez pas à pousser la porte de la salle des Tanneurs parce que vous pouvez venir en cours, j'imagine. Oui. On a le droit d'entrer.
Oui.
Bon, pas avec trop de fracas, mais on peut rentrer quand même.
Et l'entrée est gratuite.
Et c'est gratuit. Alors peut-être qu'on peut retrouver ce programme quelque part sur Internet.
Sur le site PAVEA.
Sur le site PAVEA. Donc c'est quoi le exactement?
Alors le www.pav.unif-tour.fr.
Et si on souhaite suivre l'avancée de vos travaux, où est-ce qu'on pourra lire peut-être des articles ou avoir des nouvelles de votre thèse?
Sur le site du PAV également, puisqu'en fait je suis membre de ce laboratoire.
Voilà, donc rendez-vous sur le site du PAV. Peut-être avant de terminer cette émission, est-ce que vous auriez un livre peut-être ou quelque chose, un film à recommander à nos auditeurs autour de cette question de la médiation animale? Quelque chose d'inspirant pour vous?
Aujourd'hui, encore une fois, il y a beaucoup de reportages ou de choses. Moi, je me souviens, le livre qui m'avait beaucoup marqué, c'était le livre du docteur Vernet, Didier Vernet, qui est bénéficiaire, hein, à la base, qui était bénéficiaire d'un chien d'accompagnement, enfin d'un chien d'assistance, et qui a beaucoup travaillé sur la médiation animale. Après, dans les cahiers dits de la Fondation Sommer, voire sur le site de la Fondation Sommer, on peut retrouver aussi tous les articles, alors à la fois des livres et à la fois les thèses ou les articles qui sont soit en cours, soit finalisés. Donc c'est toujours intéressant.
Voilà, alors, voilà, chers auditeurs, vous avez plein de choses à aller lire et à aller écouter. Nous remercions bien sûr Sarah Forger, on le rappelle, psychologue en médiation animale, doctorante au laboratoire PAVEA, psychologie des âges de la vie et adaptation. Et on va faire une dernière pause musicale. On va écouter à nouveau le duo Tourangeau-Ousty en attendant l'arrivée de Julie pour l'agenda culturel.
Liliane Momé, 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 Liliane Yassaniranno prisori e Riverto si pregani Liliano Mome Liliano Yassaniranno prisori Yassaniranno prisori e Riverto si pregani bidou mâché. Liliane Momé, 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 Liliane Momé,